marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, témoins et acteurs de l'histoire.
Nos chansons disaient que bon, d'autres pays sont en avance alors que le nôtre est en retard. Nos chansons disaient que Aïdjo est contre le peuple, hein, contre l'UPC. Nos chansons disaient que l'UPC est l'avant-garde de la révolution et que bon, un jour les prisons vont s'ouvrir, qu'un jour il n'y aura plus de torture et tout comme ça.
Samuel Zézé n'a rien oublié de son expérience du maquis camerounais dans les années 50 et 60. Il s'est engagé dans le mouvement de libération nationale de son pays, l'UPC, violemment réprimé par le pouvoir de Amadou Ahidjo, mis en place en 1960 avec le soutien de l'ancienne puissance coloniale française.
La chanson que j'aime beaucoup, c'est « Ça va chauffer ». Il commence par... Pour libérer le pays, pillé par des colons. Pour libérer le pays, brimé par des valets. Pour chasser l'équipe des traîtres, les maquisards sont là. Les maquisards sont là, ça va chauffer, valet, ça va chauffer. Vrai de mon père, vrai de ma mère, ça va chauffer pour vous, ça va chauffer pour vous.
L'épisode est tabou et pourtant, ça a sérieusement chauffé au Cameroun. Bien que la France ne l'ait toujours pas reconnu officiellement, l'administration coloniale a employé tous les moyens de la guerre contre-révolutionnaire pour éradiquer l'union des populations du Cameroun. 5 ans après leur première enquête publiée à la découverte et intitulée « Cameroun, la guerre cachée », nous retrouvons le trio Thomas Deltombe, Manuel Domergue et Jacob Tatitsa dans la marche du monde. Ils persistent et ils signent avec un nouveau livre, La guerre au Cameroun, l'invention de la France-Afrique, à la fois synthèse et complément d'enquête du premier. Thomas Deltombe, bonjour.
Bonjour.
Alors pourquoi un nouveau livre alors que le premier s'est imposé comme une référence sur le sujet ?
Alors, pour 3 raisons principales, 2 qui sont liées à un dialogue qu'on a avec les lecteurs. Il y a certains lecteurs qui nous ont demandé de faire une synthèse, parce qu'ils n'avaient pas forcément le courage ou le temps de lire un gros livre de 700 pages sur ce sujet. Et puis aussi, dialogue assez fructueux avec les lecteurs, dont certains nous ont donné des pistes de recherche, donc à la fois des documents, des archives, ou des témoignages qui nous ont guidés vers des témoignages. Donc on a voulu aussi pouvoir rendre compte de ces nouvelles découvertes. Ça, c'est les 2 premières raisons. Et la 3e raison, très importante aussi, peut-être la plus importante, c'est que le contexte a changé depuis la parution du Cameroun avec K en 2011, avec les déclarations de François Hollande qui est allé au Cameroun en juillet 2015 et qui, pour la première fois, a parlé de ces événements. Il appelle ça des épisodes tragiques qui auraient eu lieu, selon lui, après l'indépendance du 1er janvier 1960. Et dans ce nouveau contexte, c'est-à-dire un contexte où la France officiellement reconnaît qu'il s'est passé quelque chose, il nous a semblé important d'expliquer ce qui s'y était vraiment passé.
Alors Manuel Domergue, bonjour.
Bonjour.
Ce nouveau livre apporte en effet une nouvelle preuve sous la forme du témoignage de Max Bardet, un ancien pilote d'hélicoptère, lui-même auteur d'un livre épique sur ses aventures en Afrique. Alors qui est Max Bardet et comment s'est-il retrouvé embarqué dans des actions secrètes au Cameroun ?
La trajectoire de Max Bardet, elle est très étonnante, déjà parce qu'il a témoigné dans un livre, Ok Cargo, qui avait fait pas mal de bruit à l'époque, il y a peut-être 25 ans. C'est à la base quelqu'un qui était pilote d'hélicoptère pendant des années au cours de la guerre d'Algérie. Quelqu'un qui a des convictions très marquées à l'extrême droite.
Vous voulez dire quelqu'un proche de l'OAS ?
Tout à fait proche de l'OAS. Dans son témoignage avec nous, il a expliqué qu'il avait participé à des ratonnades, qu'il prêtait sa voiture à l'OAS pour organiser des exactions en Algérie. Et donc, suite à divers incidents en Algérie, il a été, on va dire, démis de ses fonctions, à la fois parce qu'il était trop proche de l'OAS et que, au début des années 60, le général de Gaulle avait changé d'opinion sur l'Algérie et donc les militants de l'OAS n'étaient plus en odeur de sainteté, donc il a été radié de l'armée et puis réintégré comme beaucoup d'officiers qui étaient ainsi assez proches des milieux anti-indépendantistes, pour ensuite être renvoyés au Cameroun à partir de 1962.
Mais comment l'avez-vous trouvé, alors, Max Bardet?
Alors, c'est un lecteur du premier livre Cameroun qui nous a dit qu'il avait été en service avec Max Bardet. Et donc, il nous a donné ses coordonnées, on est allé le voir, et il avait tout à fait envie de témoigner, pas seulement pour répéter ce qu'il avait écrit dans son livre, mais pour apporter de nouvelles révélations qu'on a pu publier cette fois-ci dans le deuxième livre.
Et c'est quelqu'un que vous recherchiez depuis longtemps?
Oui, on avait essayé de le trouver depuis une dizaine d'années. On nous avait dit à sa maison d'édition qu'il était sans doute mort. Il avait coécrit son livre avec une dame qui était directrice de la communication du Paris-Dakar, une américaine qui avait disparu elle aussi. Donc on s'était même demandé si ce personnage existait réellement, et en fait, il existe.
C'est très romanesque. Alors vous nous avez mis, et merci d'ailleurs, hein, vous nous avez mis en contact avec lui, c'est notre confrère de France 24, Nicolas Germain, qui a fait le voyage à Albi, dans le sud de la France, pour rencontrer celui qui se définit comme le dernier témoin français des massacres du Cameroun. Décontracté, Max Bardet a bien voulu répondre aux questions posées. Il utilise spontanément d'ailleurs le terme de guerre au Cameroun, en précisant que le conflit serait spécifique à une région particulière, celle du pays Bamileke, un territoire vallonné situé dans la région de l'ouest Cameroun, à une centaine de kilomètres de Douala.
La guerre du Cameroun, d'abord la guerre Bamileke, on n'en a pratiquement pas parlé en France. On a parlé de qu'il y avait eu l'attaque de l'aérodrome ou de Douala ou de Yaoundé, je ne me souviens plus. Mais ça s'arrête là. La guerre, c'était resté dans... Comment vous dire, c'était pas tout le Cameroun qui était en guerre. Hein, c'était le pays Bamileke. Et il faut voir ça comme ça aussi.
Avant le Cameroun, c'est bien en Algérie que Max Bardet a fait ses armes. Depuis le début de l'insurrection en novembre 1954, c'est là que l'armée française a perfectionné sa doctrine de guerre contre-révolutionnaire en combattant le FLN.
J'ai quitté l'Algérie parce que j'ai fait 6 ans quand même en Algérie de guerre sur radicaux. Et on m'a muté au Cameroun dans une unité où il n'y avait qu'un pilote. Une petite unité au Cameroun. Une petite base où il y avait, on était, je ne sais pas, une cinquantaine, même pas, une quarantaine. Mais on ne m'a pas dit, en partant de France, qu'il y avait la guerre Bamileke. Je suis tombé sur un officier, un capitaine, qui représentait l'armée française au Cameroun. Et c'est tout. Et il n'y avait pas d'armée française. Il n'y avait que ce capitaine. Et pendant 3 mois, j'ai su qu'il se passait des choses sur les hauts plateaux, ou enfin dans le pays Bamileke. Mais on ne m'y a pas envoyé. J'allais à Yaoundé, j'allais à droite, j'allais à gauche. Je survolais, mais je ne travaillais pas dans le coin.
Mais dans le courant de l'année 1963, tout bascule. La nature des activités de pilote de Max Bardet change du tout au tout. Il ne s'agit plus de transporter les gradés de l'armée française, mais de participer activement à des actions secrètes.
Je connais à peu près la valeur des massacres qu'il y a eu, le nombre de gens qui ont été massacrés, parce que j'ai eu l'occasion de faire une mission de 3 semaines au Cameroun avec M. Coudray, qui était un ancien commandeur du Cameroun et qui faisait fonction de super-préfet, ou je ne sais pas quoi, un truc assez gradé. Et c'est un monsieur très gentil, très âgé d'ailleurs. Et on a fait 3 semaines de pays Bamileke. Et c'est lui qui m'a fait parcourir le pays Bamileke. Je ne savais jamais où on était. Parce qu'il me disait, ah, prenez telle direction, on va voir tel village, ou prenez telle direction, on va voir telle ethnie, ou tel truc, tel machin, telle chose. Chaque fois, il prenait des notes. On a passé le pays Bamileke au peigne fin. En rentrant, on a discuté, et je lui ai dit, mais monsieur Coudray, ça fait combien de morts, ça ? J'ai dit, parce que chaque fois, je vous entends dire, tiens, là, il n'y a plus ça, là, il n'y a plus ça, là, il n'y a plus ça, tout ça. Et il me dit, écoutez, M. Bardet, à mon avis, au minimum 300 000, au maximum 400 000.
Lors de ces opérations, le pilote d'hélicoptère constate l'étendue des massacres et peut décrire avec précision les armes utilisées ainsi que les modes opératoires. Et pour cause, Max Bardet surveillait la zone et veillait à ce que personne ne s'échappe.
Moi, chaque fois que je faisais une mission, je n'avais pas un numéro d'ordre de mission. J'allais faire une RAV, une reconnaissance à vue. La France ne s'impliquait pas dans l'affaire. D'ailleurs, moi, jamais personne ne m'a dit, aucun de mes supérieurs ne m'a dit, Bardet, c'est la guerre Mamiliké, vous intervenez pendant la guerre Mamiliké. Non. J'allais faire des RAV. On a fait deux ou trois sorties en pays Mamiliké, très spéciales. Il y a eu beaucoup trop de massacres en pays Mamiliké. Beaucoup trop de massacres. C'est vrai, il n'y a plus de... Je crois que je suis le seul survivant des derniers massacres. Mais ils ont eu lieu, c'est vrai. On n'en a pas parlé, personne ne l'a dit. Je crois que ces derniers massacres ont eu lieu pour finir d'étouffer le peu de... Comment ça s'appelle ? Mais le peu de gens qui étaient des gens quand même, des Noirs qui étaient évolués, qui avaient fait des études et qui, tout, et qui voulaient autre chose. Je ne sais pas ce qu'ils voulaient exactement, parce que c'est très difficile pour le savoir. Mais il a fallu se débarrasser de ces gens-là. C'était deux ou trois petits groupes, pas très très nombreux, mais ils ont été exterminés par les Congolais. Enfin, les Congolais, les fameux Gus, là. C'est pour ça que ça a été fait dans des conditions assez minables. Parce que, bon, mais... fusiller des gens, c'est... Ça fait partie du jeu de la guerre. Mais il y a une façon de le faire. Je crois qu'on devrait leur interdire la machette. Parce que ça, c'est... Moi, c'était... J'avais peur de ça, de tomber entre leurs mains et d'être découpé en tranches. C'est ça. D'ailleurs, tout le monde nous le disait, tout le monde nous disait, vous savez, si vous pouvez vous défendre, faites-le, mais la dernière, gardez-la pour vous. Parce que tout ce qu'on a retrouvé, bon... Tout ce qu'on a retrouvé partout, chaque fois, c'est des morts atroces, quoi. Ils tiraient sur les gars, sur les hommes en général, à la Kalachnikov. Et les bonnes femmes, ils les tuaient à la machette. Vous ne pouvez pas vous faire une idée dans quel état c'est quand on a pris un coup de machette dans l'entrejambe. Et elles ne meurent pas de suite. C'est ça qui les intéresse, parce qu'ils sont... C'est pas de la méchanceté, c'est du sadisme, c'est une espèce de vice. Il y a quand même quelque chose de pas normal là-dedans.
Le témoignage du pilote français Max Bardet, témoin des massacres au Cameroun pendant la guerre secrète soutenue par la France entre les forces camerounaises et la rébellion de l'UPC, l'Union progressiste du Cameroun. Et c'est vous, Manuel Domergue et Thomas Deltombe, qui l'avez retrouvé, ce pilote d'hélicoptère, un témoignage à considérer tout de même avec beaucoup de prudence et qu'il faut décrypter. Alors d'abord, Max Bardet fait le lien entre la guerre d'Algérie et la guerre du Cameroun. Est-ce qu'il y a une continuité ?
Tout à fait. Déjà, lui, personnellement, fait le lien, puisque ce qu'il a appliqué au Cameroun, une guerre, en Algérie, une guerre qu'il a menée pendant 6 ans, il va à peu près mener les mêmes méthodes au Cameroun. Le lien, c'est que ce sont les mêmes méthodes de guerre qui ont été appliquées. C'est la doctrine de la guerre révolutionnaire, dans le même but. C'était empêcher l'indépendance de l'Algérie, et puis ensuite empêcher l'indépendance du Cameroun, ou une fois qu'elle a été concédée, conserver l'influence de la France. Donc les méthodes qui ont été employées sont des méthodes qui ont généralisé le regroupement des populations, la torture systématique des prisonniers, une guerre psychologique également, pour ramener les populations dans le giron de la France, des autorités, pour les désolidariser des rebelles, de ce qu'ils appelaient les rebelles. Une guerre également préventive, où on a en fait... calquer pas seulement la doctrine de la guerre révolutionnaire, mais aussi la situation qui avait donné lieu à cette doctrine, c'est-à-dire la situation de la guerre d'Indochine, puisque c'est là que ça a été inventé. Donc l'opposition avec un mouvement insurrectionnel, et tout mouvement de contestation est vu comme un mouvement insurrectionnel. Donc c'est à la fois une guerre préventive, et puis une guerre dans la population. Pourquoi ? Parce que c'est pas seulement une guerre d'une armée contre une autre, c'est une guerre asymétrique, où il y a des maquisards d'un côté, et puis une armée régulière, l'armée française en l'occurrence de l'autre, épaulée par l'armée camerounaise ensuite. Donc c'est une guerre contre des civils, en fait, de la part de l'armée française. Et le témoignage de Max Bardet est un très bon exemple.
Alors il atteste effectivement de la réalité des exactions, mais en ce qui concerne l'implication de l'armée française, il dit qu'il y avait juste un capitaine. Donc en fait, il parle plutôt d'encadrement, si j'entends bien.
Alors lui, il parle de massacre encadré. Et les encadrants, c'était lui et le capitaine. Lui, il encadrait depuis son hélicoptère, et son rôle qu'il décrit, qu'il avoue, il rassemblait la population, et on parle de centaines de personnes, de civils désarmés, et si certains souhaitaient quitter ce rassemblement, où ils allaient être massacrés, son rôle était de les signaler pour qu'ils puissent être ramenés et massacrés, alors même qu'il s'agit là de civils qui sont désarmés, donc on n'est pas du tout dans le cadre d'un affrontement, d'une guerre, d'une légitime défense ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment un crime de guerre évident qui est décrit par Max Bardet et dans lequel lui n'est pas spectateur, il est acteur, tout comme le capitaine qui encadrait ces massacres.
Alors enfin, il est le témoin donc de massacres, dit-il, en pays bamiliké. Il insiste beaucoup sur le fait. Est-ce que ça ne contredit pas, Thomas Deltombe, l'idée d'une insurrection nationale, nationaliste donc ?
Alors, il y a plusieurs éléments vraiment importants à décrypter dans le témoignage de Max Bardet, à mon avis. C'est d'abord effectivement la lecture ethnique qui donne au conflit. Il faut voir qu'il est là-bas entre 1962 et 1964, à une période où la guerre est déjà très avancée, c'est déjà le reflux de la guerre. La guerre a commencé au milieu des années 50, elle a été lancée par l'armée française, les opérations militaires ont été lancées par l'armée française dès décembre 1956. À Douala, à Yaoundé, en Sanaga-Maritime, donc la région qui est entre ces deux principales villes du Cameroun, dans la région du Mongo, etc. Mais il se trouve que lui, il a opéré dans cette zone dite Bamileke. Et du coup, il a une lecture ethnique d'un conflit qui est en fait un conflit de libération nationale. Il y avait même des UPCistes dans le nord Cameroun. Donc lui a une vision ethnique de ce conflit et qui a été suscité d'ailleurs. Dans leur formation, les militaires français se voient imposer cette grille de lecture ethnique. On a des textes effarants comme celui de Jean Lamberton qui en mars 1960 fait tout un texte dans la revue Défense Nationale en expliquant que le problème du Cameroun c'est les Bamileke. Donc ils ont une lecture ethnique du conflit qui est une arme de guerre. Cette lecture ethnique permet de diviser les Camerounais. Le deuxième élément important, c'est le silence. Vous dites, il dit au début de son témoignage, on n'a pas entendu parler de cette guerre. Et effectivement, le silence a été, de mon point de vue, de notre point de vue, Jacob Tatissa, Manuel Domergue et moi, l'arme principale. Le fait que personne ne sache, ou quasiment personne ne sache ce qu'il se passe, fait que personne ne pouvait contester ce qu'il se passait. C'est ça la différence entre l'Algérie et le Cameroun. En Algérie, il y avait beaucoup de Français qui avaient été envoyés là-bas, beaucoup de Français qui vivaient là-bas, beaucoup d'Algériens qui pouvaient se manifester. Et du coup, l'opinion publique française, au bout d'un moment, a commencé à désapprouver, une partie de l'opinion publique française a désapprouvé ce qui se passait en Algérie.
Et puis toutes les familles étaient touchées, voilà. Tous les fils partaient en Algérie.
Le fait que le silence soit imposé au Cameroun, et c'était d'ailleurs une instruction, je cite, « il faut faire régner le silence ». C'était une instruction militaire, a fait que personne n'a pu contester ce qui se passait. Et du coup, l'armée française pouvait agir en toute liberté.
Alors, qui est l'ennemi de la France et quelle est la présence réelle de l'armée française qui est quand même très occupée en Algérie?
C'est justement le troisième élément le plus intéressant du témoignage de Max Bardet. C'est la mécanique de guerre révolutionnaire dont parlait Manuel Domergue, est qu'on sous-traite. La France sous-traite ce qu'ils appellent le maintien de l'ordre. C'est-à-dire, avec très peu d'éléments français sur place, on mène une guerre pas chère, puisque de toute façon, on sous-traite à des supplétifs africains qu'on fait venir de Côte d'Ivoire, du Gabon, du Tchad, etc.
C'est d'ailleurs la photo de couverture de votre livre, où l'on voit un officier français.
Qui, effectivement, avec une liste entre les mains, encadre physiquement des militaires africains, on ne sait pas s'ils sont camerounais ou si c'est des tchadiens ou autres, qui sont envoyés sur le terrain. Donc effectivement, sur la photo, c'est intéressant. On peut être sûr que les deux Français qui encadrent sont bien mieux payés que les Africains qui sont envoyés au casse-pipe. Donc c'est une guerre qui est assez économique et qui aussi permet de faire comme s'il s'agissait d'une simple querelle africaine. C'est-à-dire que si jamais des journalistes, et c'est arrivé, il y a eu quelques journalistes qui se sont allés sur place, notamment un journaliste du Figaro, il décrit le conflit comme un conflit interafricain. Alors qu'en réalité, c'est un conflit qui a été lancé par une puissance coloniale dès le milieu des années 50 pour un objectif politique très précis qui est de conserver la mainmise sur un pays.
Au-delà des massacres, quelle logique a conduit la France à mener la guerre aux nationalistes camerounais dans le plus grand secret ? C'est à suivre dans La Marche du Monde sur RFI.
La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Suite de la marche du monde sur la guerre secrète au Cameroun, à l'occasion de la sortie du livre de Thomas Deltombe, Manuel Domergue et Jacob Tatitsa, aux éditions La Découverte. Un livre dédié à l'écrivain Mongo Betty, contraint à l'exil pendant plus de 30 ans, suite à la censure qu'il a subie dès 1972 par les gouvernements français et camerounais, pour son essai « Main basse sur le Cameroun » publié chez Maspero.
Je suis plus africain que jamais. Peut-être justement parce que j'ai été en exil si longtemps. Je ne me suis pas exilé pour le plaisir. Je me suis exilé parce que si j'étais rentré chez moi à l'époque de M. Aïdjou, ou même au début du système de M. Paul Biya, il est probable que j'aurais été assassiné. Il est probable que j'aurais été mis en prison au mieux. Parce que mes camarades UPCistes, j'étais militant UPCiste, qui étaient rentrés, ont connu ce destin-là. Ils ont été mis en prison ou ils ont été assassinés, à moins qu'ils ne se soient reniés et qu'ils ne soient entrés dans le système. Donc, je ne suis pas resté là pour le plaisir, je suis resté là par nécessité et à force justement de réfléchir à mon pays de loin, je l'ai d'autant mieux compris. C'est peut-être l'exil qui m'a rendu si africain.
Un enregistrement très rare que la voix de Mongo Betty dans La Marche du Monde, dont l'engagement force l'admiration. Pourquoi lui avez-vous dédicacé votre livre, Thomas Deltombe ?
Bon, on a dédié le livre à Mongo Betty parce que c'est vraiment la figure la plus importante qui a permis de faire sortir cette guerre de l'oubli. Vous l'avez dit, son livre Main basse sur le Cameroun, qui traite de ce sujet-là, hein, la façon dont la France a contrôlé le passage à l'indépendance du Cameroun et l'a contrôlé par la force et dans le sang. C'est donc le sujet de Main basse sur le Cameroun et c'est pour cette raison que son livre a été censuré.
Manuel Domergue, la voix de Mongo Betty.
Oui, évidemment, c'est aussi le symbole de la censure. Plusieurs décennies plus tard, on peut parler de la guerre du Cameroun, mais il faut savoir que pendant très longtemps, ça a été interdit, au Cameroun évidemment, mais aussi en France.
Alors j'en profite d'ailleurs pour inviter nos auditeurs à visiter la page de la Marche du Monde sur RFI.fr. Nous vous avons préparé une petite sélection bibliographique avec entre autres les livres de Mongo Betty. Alors depuis le début de cette émission, on comprend bien à quel point ce sujet de la guerre au Cameroun est douloureux, compliqué, secret, et on se demande à l'époque quelle était la logique politique de la France, dirigée par René Coty jusqu'en 1958, et ensuite par le général de Gaulle. Alors Thomas Deltombe, est-ce qu'on peut reprendre un peu ce contexte historique plus large de cet empire français post-Deuxième Guerre mondiale ?
En effet, il est important de bien comprendre que la guerre du Cameroun, c'est pas juste une succession de massacres. Il y a bien une logique politique derrière toutes ces violences, et une logique politique qui remonte à loin, même qui remonte à la Première Guerre mondiale en réalité. Il faut le mentionner brièvement, le Cameroun n'était pas une colonie à l'époque, c'était un territoire international, sous la tutelle d'abord de la Société des Nations, puis de l'ONU, qui avait été confié en administration, pour sa plus grande partie à la France et pour une partie au Royaume-Uni. Du fait de ce statut spécial, le Cameroun, comme le Togo d'ailleurs, et comme d'autres territoires,
Le Liban,
la Syrie, mais en Afrique le Rwanda et autres, les colonisés se voyaient reconnaître des droits, contrairement aux autres colonisés qui étaient intégrés finalement dans l'Empire et qui étaient des indigènes. Bon. Les Camerounais, comme les Togolais et autres, avaient des droits. Ils pouvaient faire valoir ces droits. Évidemment, ça c'était très très gênant pour les puissances coloniales. Et après la Deuxième Guerre mondiale, les Français en particulier ont considéré que ce territoire, le Cameroun, mais aussi le Togo, était un territoire trop mal arrimé à l'Empire français. Jacques Soustelle les décrivait comme des brèches dans l'Empire français. Il écrit un texte où il dit « Le Togo et le Cameroun sont des brèches ». Il fallait donc colmater la brèche. Et c'est donc ce que les autorités françaises ont fait. D'abord en essayant de réprimer en sous-main les mouvements qui revendiquaient les droits du peuple camerounais. Et ensuite, puisque cet étouffement n'a pas fonctionné, ce colmatage de la brèche est passé par la force et la violence et les massacres. Donc c'est pour comprendre les massacres, il faut comprendre ce qui s'est passé avant.
Est-ce qu'il y a également une influence de la première défaite de la France dans une guerre coloniale, c'est-à-dire l'expérience de l'Indochine ? Je pense bien sûr à la défaite de Dien Bien Phu en 54, Manuel Domergue.
Tout à fait, ça explique la grande crainte de la France à partir des années 50 et notamment de 54, de perdre non seulement l'Indochine, mais aussi les colonies africaines puisqu'on le sait, 54, c'est Dien Bien Phu, c'est le début de la guerre d'Algérie, et c'est aussi l'arrivée au Cameroun d'un haut commissaire Roland Pré, qui va en fait
Roland Pré, qui va lancer
la répression ouverte, cette fois-ci, contre l'UPC, l'interdiction de l'UPC, et donc c'est vraiment une des causes premières du déclenchement de la guerre, c'est l'interdiction de l'UPC. On ne fait plus semblant de simplement réprimer de manière policière ou administrative le mouvement UPC, on lance réellement la guerre, et c'est une conséquence de l'Indochine, parce qu'il y a une paranoïa quasiment de l'armée française, de l'administration française, face à tout mouvement de contestation.
Comment on peut présenter l'UPC justement et son leader Ruben Umniobe, est-il communiste ?
L'UPC, l'Union des Populations du Cameroun, est un mouvement nationaliste, indépendantiste, qui pour certains de ses membres ont des sympathies communistes, mais c'est aussi lié à cette période-là. C'est un mouvement qui demande l'indépendance au départ, au bout de quelques années, et puis après, au fur et à mesure que le temps passe, qui demande une indépendance immédiate. Il faut savoir que c'est un mouvement pacifiste, qui a été créé donc en 1948, et qui demande l'indépendance par le droit. Ruben Umniobe, c'est un juriste, un greffier, il écrit à l'ONU, il demande à tous les militants, tous les sympathisants de l'UPC d'écrire à l'ONU pour faire valoir leurs droits. Il manifeste, il se présente aux élections, et systématiquement, il perd ses élections, alors qu'il s'agit au départ du seul parti politique, puis du principal parti politique, et ils n'ont jamais eu le moindre représentant, même aux élections locales au Cameroun. Et donc, c'est cette fermeture totale de l'administration française à tout dialogue avec l'UPC qui va aboutir à l'interdiction dès les premières émeutes, manifestations un petit peu violentes, et donc au final à la guerre. Mais ce n'est pas du tout l'intention de l'UPC. L'UPC ne s'est jamais préparé à la guerre. Et d'ailleurs, quand elle a commencé avec les premiers affrontements dans 1955-56, personne à l'UPC était prêt à monter un maquis, avait des armes, avait des stratégies, des conseillers militaires. C'est vraiment des petits fonctionnaires, des syndicalistes, des villageois qui se retrouvent embrigadés dans une guerre qu'ils n'ont pas choisie.
Mais ils sont ensuite passés à la lutte armée, hein. Ils ont créé le mouvement de lutte armée. Alors vous aviez justement recueilli le témoignage des membres de l'UPC lors de votre première enquête, et je vous propose de les entendre. Ils sont présentés par votre co-auteur Jacob Tsatitsa. Il poursuit actuellement ses recherches au Canada car il n'a jamais pu finir sa thèse au Cameroun, c'est toujours intéressant de le savoir. Il s'est intéressé à la mémoire de la répression dans son propre pays, où les anciens de l'UPC sont encore nombreux.
Nombreux au Cameroun, mais ils croupissent dans la misère. Et pour parler de l'histoire de leur mouvement, très souvent, ils demandent une petite motivation pour certains, et puis d'autres ont des blocages liés au traumatisme, des tortures de cet épisode.
Le témoin que vous nous proposez d'entendre, c'est Samuel Zézé. C'est un ancien chef rebelle de l'UPC.
En ce qui concerne l'engagement de Samuel Zézé, qui est un natif du sud Cameroun, notamment de la région de Saint-Mélima, il a d'abord été un ennemi de l'UPC parce que son éducation lui disait que la France était la mère patrie. Et il a été donc convaincu de par le travail forcé qu'a vécu sa famille, notamment son père, et puis la misère ambiante qui régnait dans le sud Cameroun à adhérer à l'UPC. Il a donc adhéré à l'UPC en 1955, et il a vécu la répression des émeutes de mai 1955 dans sa chair, parce que c'était une répression sauvage et indescriptible. Il s'est donc engagé dans le mouvement de libération nationale du Cameroun, et il a été nommé comme secrétaire pour la région du Dja-El-Obo, et il était également chargé de la tenue des archives. Il a connu la torture dans les geôles de Tanyéap, sous le contrôle de Girolami et du commandant Renard.
Le témoignage de Samuel Zézé dans La Marche du Monde.
C'est lui qui dirigeait les enquêtes, il s'appelait Monsieur Renard. C'était un Français, il venait de l'Algérie, il était spécialiste des interrogatoires musclés. On vous attache comme ça, on met un bâton ici, ça fait extrêmement mal, le balançoire. Et en même temps, on branche un truc électrique, on te dit... Si tu avoues, on te fait descendre. Si tu n'avoues pas, tu vas mourir là. Maintenant, là, au cours des perquisitions à Yaoundé, ils sont donc tombés sur la sacoche de l'état-major. Ils ont donc trouvé mes archives, les comptes rendus d'opération et tout ça. Ils disent, bon, où se trouve la garde? C'est un garde de Saint-Mélima. Ils sont donc venus m'arrêter. Le jour des urnes, on a arrêté un capitaine de maquillage alors que j'étais encore gamin. Hein. Ils m'ont emmené à Yaoundé, nous sommes arrivés là-bas. Quand la camionnette s'est arrêtée, bon, j'étais comme un poulet dans la cage.
Finalement, ils m'ont fait sortir, ils m'ont mis des chaînes aux pieds des menottes. C'est-à-dire, ils m'ont d'abord passé à tabac, comme je vous ai dit, la torture, et puis 2 jours sans manger. Ils m'ont mis dans une cellule où je ne parle avec personne. Personne. Le reste des gens qu'ils avaient arrêtés étaient dans un enclos. Les gardes dormaient par terre, comme un troupeau de moutons.
Jacob Tatsitsa, est-ce que l'utilisation de la torture était généralisée au Cameroun ?
L'utilisation de la torture était généralisée au Cameroun, notamment la balançoire que le témoin nous a presque décrit dans tous les détails.
La guerre entre l'UPC et l'armée au Cameroun, elle est contemporaine de la guerre d'indépendance en Algérie. Ce sont les années 50. Est-ce que les méthodes de l'armée française au Cameroun sont comparables, selon vous, à celles utilisées en Algérie ?
Les mêmes méthodes ont presque été utilisées au Cameroun et en Algérie. Et dans la documentation d'archives, il était même recommandé par certains agents de la répression qu'on puisse s'inspirer de ce qui se faisait en Algérie pour réprimer la guerre de libération nationale d'indépendance au Cameroun. C'est là où on assiste donc à des tortures systématiques et à des retournements des prisonniers pour réprimer le mouvement nationaliste camerounais.
Alors en ce qui concerne les populations camerounaises, est-ce qu'elles étaient un enjeu pour les deux camps et est-ce qu'elles subissaient les violences des deux camps ?
Et les populations étaient prises entre les feux des deux camps puisque quand vous adhériez au camp du mouvement nationaliste, vous étiez systématiquement torturé. Quand vous adhériez au camp de l'administration coloniale, vous étiez également persécuté par le mouvement nationaliste qui vous dénonçait comme Fingon, signifie traître et agent doux.
La mémoire des maquisards de l'UPC au Cameroun perdure à travers les champs que les témoins que vous avez rencontrés n'ont pas oublié, un chant bassa. La mémoire de Ruben Oumniobé, chantée en bassa sur RFI dans la marche du monde. Ruben Oumniobé assassiné, Félix Roland Mounier assassiné, Ernest Wandier assassiné, les trois leaders de l'UPC ont subi le même sort et vous le rappelez dans votre livre La guerre du Cameroun, Thomas Deltombe, c'est clairement une éradication du mouvement par assassinat ciblé et vous écrivez messieurs qu'au fond la France organise un état indépendant contre-subversif après avoir organisé la guerre contre-subversive. Que voulez-vous dire ?
En fait, l'élément clé là-dedans, c'est le mot indépendance. Pendant longtemps, donc, l'UPC a réclamé l'indépendance, la France refusait. Au bout d'un moment, la France a compris qu'elle ne pouvait plus refuser l'indépendance. Et elle a donc essayé d'imaginer une indépendance factice, une indépendance en trompe-l'œil. C'est marqué dans les documents d'archives. Daniel Doustin, qui était un des agents français très influents au Cameroun, explique. Les Camerounais veulent l'indépendance ? On va leur donner l'indépendance. Mais on va leur donner une indépendance truquée. Une indépendance qui est une fausse indépendance, une indépendance dans laquelle la France reste maître du jeu.
Donc cela veut dire que Amadou Ahidjo est choisi et que le dossier est suivi par Jacques Foccart, c'est ce que vous appelez l'invention de la France-Afrique.
Alors effectivement, pourquoi on lit la guerre du Cameroun, on fait une liaison entre la guerre du Cameroun et le concept de France-Afrique, c'est qu'il se trouve que le Cameroun a été le premier pays où la France a réussi à imposer cette indépendance octroyée, entre guillemets, c'est-à-dire une indépendance qui ne libère pas le peuple, mais qui au contraire permet de le maintenir sous la domination de l'ancienne puissance coloniale. Et donc le Cameroun, qui est souvent considéré comme une Afrique en miniature, est en fait une sorte de France-Afrique en miniature. C'est là que a été inventé pour la première fois les mécanismes qui ensuite vont être exportés dans les autres anciennes colonies lorsque elles vont à leur tour passer à l'indépendance.
Alors, à travers vos enquêtes, Thomas Deltombe et Emmanuel Domergue, vous interpellez clairement les autorités françaises. Et c'est intéressant de revenir sur l'évolution, justement, des déclarations officielles françaises. Lorsque vous avez sorti votre première enquête en 2011, le dernier à s'être exprimé sur le sujet, c'était notre ex-premier ministre et actuel candidat à la présidentielle, François Fillon. Il répondait, c'était en 2006, à une journaliste camerounaise lors d'une conférence de presse à Yaoundé.
Vous avez parlé, en répondant à la question de mon confrère, que l'accord de défense revu et corrigé sera mis à la disposition de la presse. Mais on aimerait bien savoir que va-t-il se passer avec les victimes, disons collatérales, des imperfections ou de ce que vous avez appelé les scories du passé qui étaient contenues dans le précédent accord. Et je pose la question parce que des ONG estiment que il y a plusieurs nationalistes camerounais, notamment, qui sont tombés, qui ont été assassinés par l'armée française. Alors, que va-t-il se passer, par exemple, avec cela et les conséquences des imperfections des précédents accords de défense?
Je dénie absolument que des forces françaises aient participé en quoi que ce soit à des assassinats au Cameroun. Tout cela, c'est de la pure invention. Et naturellement, lorsque je parlais de scories, ce n'est pas à ça que je pensais. Quand je parlais de scories, je pensais à une période pendant laquelle la coopération était une coopération, comment dirais-je, qui venait d'en haut, qui venait des pays développés vers les pays africains, qui n'était pas un partenariat, qui n'était pas partagé, qui ne faisait pas l'objet, au fond, d'une sorte de codécision, pour prendre une expression que les parlementaires européens aiment beaucoup, d'une codécision entre l'Afrique et l'Europe. Voilà ce que nous voulons changer.
Et voilà ce que François Hollande, lui, a voulu changer dans la position officielle de la France lors de son déplacement exceptionnel en 2015.
Je tenais à venir ici au Cameroun. Il y avait presque 15 ans qu'un président de la République française n'était pas venu en visite officielle dans votre pays, monsieur le président. Je tenais à y venir aussi parce qu'il y a des liens humains qui unissent nos deux pays. Certains de ces liens plongent loin dans notre histoire. Ils peuvent être douloureux et la France regarde toujours avec lucidité son passé pour mieux préparer l'avenir et c'est ce que nous avons fait. Sur la question de l'histoire, c'est vrai qu'il y a eu des épisodes extrêmement tourmentés et tragique même, puisqu'après l'indépendance, il y a eu une répression en Sanaga maritime, au pays Babiléké. Et nous sommes, comme je l'ai fait partout, ouverts pour que les livres d'histoire puissent être ouverts et les archives aussi.
Alors François Hollande a lu vos deux bouquins, Manuel Domergue?
Sans aucun doute. Non, c'est pas sûr.
Plus sérieusement.
En revanche, il était tout à fait prévenu qu'il y aurait des questions sur ce sujet extrêmement sensible au Cameroun, de la guerre du Cameroun.
Vous-même, vous avez eu des contacts avec l'Élysée?
Tout à fait, avec des conseillers, oui. Il y a eu des tribunes dans la presse. Je veux dire, il était au courant qu'il serait interpellé à ce sujet. Et donc, sa réponse, qui évidemment est bien meilleure que celle de François Fillon, mais c'est dur de faire pire que de parler de pure invention. On était dans le déni total le plus caricatural. Donc là, il reconnaît qu'il s'est passé quelque chose. Il parle de répression, il ne parle pas de guerre. Autre problème très important, il parle d'une répression après l'indépendance. Alors qu'on montre bien que ça a commencé vraiment à minima en 1955.
On va dire que c'est un premier pas. Est-ce qu'il y a une brèche à cette fois, pour reprendre ce terme?
Peut-être qu'il y a une brèche, ce serait intéressant. C'est un petit peu insultant quand même, quand on sait qu'on va être interpellé là-dessus, d'avoir une réponse aussi hésitante, aussi approximative de la part d'un chef d'État au moment de reconnaître ce qui a été une guerre menée par son pays au Cameroun.
Enfin, il est promis tout de même à ne pas être dans le déni total.
Non, mais tout à fait. Mais c'était dur d'être plus caricatural que François Fillon.
Alors, est-ce que ses propos ont été suivis des faits?
Alors, il annonce, là, dans l'extrait qu'on a entendu, l'ouverture des archives, sans plus de précision. Nous avons contacté des conseillers à l'Élysée qui nous ont dit qu'effectivement, il y avait un processus d'ouverture d'un grand nombre d'archives qui n'étaient pas communiquées jusqu'ici. Pour l'instant, à part des contacts informels comme ça, on n'a rien eu, il n'y a eu aucune communication, aucune mise à disposition du public, parce que ce n'est pas seulement ouvrir des archives, il y a déjà beaucoup d'archives qui sont ouvertes, qui existent, sur lesquelles on s'est basé pour écrire nos livres. Encore faut-il qu'elles soient accessibles, non seulement aux chercheurs français, mais aussi aux chercheurs et au public camerounais qui ne peut pas venir à Paris pour consulter ces archives. Mais pour l'instant, il ne s'est rien passé de concret.
Alors justement, du côté camerounais, et vous rentrez de Yaoundé, Thomas Deltombe, où vous êtes allé présenter votre nouveau livre. Comment ça s'est passé?
Très bien, très bien. On a été très bien accueillis. On a fait une dédicace dans la librairie des peuples noirs à Yaoundé, qui a été fondée par Mongo Betty, dont on parlait tout à l'heure. Il y avait beaucoup de monde, un grand intérêt, un niveau d'intervention dans le public qui était extrêmement élevé. C'est toujours extrêmement agréable de pouvoir dialoguer dans ces conditions-là. C'était vraiment très, très intéressant. Alors c'était plus intéressant pour moi, à mon avis, que pour les gens qui étaient venus m'écouter.
Et que demandent aujourd'hui les Camerounais, justement?
Ça, il faut leur demander à eux. C'est pas à nous de répondre
à
cette question.
Quelles sont les questions qu'ils vous ont posées?
Le problème qui est soulevé dans le livre, c'est la question des relations entre la France, ancienne puissance coloniale, et les pays africains qui étaient les anciennes colonies françaises. Le Cameroun, c'est vraiment un exemple emblématique, mais un exemple emblématique d'une relation beaucoup plus globale. Et c'est là, à mon avis, que si on parle des enjeux d'histoire et de mémoire, on touche le cœur du sujet. C'est-à-dire que les autorités françaises, elles vont être obligées de parler de ces conflits. Mais est-ce qu'elles sont prêtes à aller à comprendre la logique qu'il y a derrière ces conflits, c'est-à-dire la perpétuation d'une relation d'inégalité et d'injustice entre la France et ses anciennes colonies africaines?
Alors, cette guerre cachée au Cameroun serait-elle justement un particularisme france-africain? C'est ce que nous avons voulu comprendre en contactant par téléphone Meredith Terreta, les professeurs agrégés en histoire à l'Université de Ottawa, titulaire de la chaire Gordon F. Henderson depuis juillet 2016. Et elle a passé toute son enfance à Yaoundé. Ceci expliquerait-il cela? Meredith Terreta, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est très surprenant, est-ce que c'est justement pour cela que vous êtes venu à vous intéresser à cette question des violences et de la répression au Cameroun dans les années 50 et 60?
Je dirais oui, absolument. J'ai vécu à Yaoundé, j'y suis arrivée je crois à l'âge de 7 ans, et puis je suis repartie vers l'âge de 14 ans. Pendant ce temps, j'étais inscrite à l'école qui est toujours là, l'école française Fustel de Coulanges. Et puis, comme je suis rentrée aux États-Unis, j'ai entamé mes études d'université. Je suis tombée sur le livre de Richard Joseph, qui est un livre qui décrit justement le mouvement nationaliste camerounais, sa répression par l'administration française. Et j'ai été absolument étonnée parce que, malgré mon enfance passée à Yaoundé, dans cet établissement scolaire, je n'en avais jamais entendu parler.
Meredith Terreta, vous avez donc eu un choc. Et en tant qu'universitaire, vous avez voulu vous intéresser à cette question qui vous touche particulièrement puisque vous êtes née au Cameroun, cette question de la guerre au Cameroun. Est-ce que vous reconnaissez ce terme de guerre en tant qu'historienne?
Oui, absolument, parce que après avoir fait des recherches à la maîtrise aussi bien qu'au doctorat, des recherches de terrain et des recherches d'archives sur le sujet, on ne peut pas aborder le sujet d'une façon scientifique sans reconnaître le terme « guerre ».
En ce qui concerne la question plus large du droit international, qu'est-ce que les archives de l'ONU ont pu vous apprendre, puisque rappelons qu'en 1955, le Cameroun n'est pas à proprement parler une colonie française?
Non, pas du tout. À partir de 1946, un accord de tutelle a été mis en place entre les administrateurs des Camerouns, donc entre les Français et l'ONU, entre les Britanniques et l'ONU. Et ces accords de tutelle étaient juridiquement contraignants. Ce qui est le plus important, à mon avis, pour le cas du Cameroun, c'est que l'interdiction de l'UPC par l'administration française était une violation flagrante de l'accord de tutelle entre la France et l'ONU. Et donc, ça veut dire que c'était une violation du droit international.
Est-ce que la répression au Cameroun est une histoire uniquement france-africaine?
Je dirais qu'il y a des particularités france-africaines, mais en même temps, ça ne s'arrête pas là. On peut faire une histoire comparée, par exemple, entre des guerres de décolonisation très brutales qui se déroulaient presque en même temps au Kenya, où aujourd'hui nous avons les survivants de cette décolonisation brutale qui ont réussi à porter plainte contre le gouvernement britannique.
Vous parlez des Mau Mau?
De l'armée de la terre et de la liberté au Kenya. Oui, les Mau Mau, c'est une appellation britannique. Dans chacun des cas, il y avait une puissance européenne bien définie. Je pense qu'il est temps vraiment d'ouvrir toutes les archives aux chercheurs, de reconnaître qu'il y a des historiens qui ont fait un grand travail. Nous savons ce qui s'est passé dans ces années-là, les années 50, les années 60. Et il est temps maintenant de faire face à cette histoire.
Merci beaucoup, Meredith Terreta.
Je vous remercie également, c'était mon plaisir.
La guerre au Cameroun, véritable objet d'histoire aujourd'hui, elle n'est plus le monopole des écrivains engagés ou des anciens militants de l'UPC. Est-ce que c'est ça aussi qui est nouveau? Et ce sera ma dernière question, Manuel Domergue.
Oui, tout à fait. C'est pas du tout une revendication purement militante de faire reconnaître l'existence de cette guerre. C'est tout simplement un fait historique avéré. Certains auteurs ont été cités. Il y en a beaucoup d'autres, notamment Achille Mbembe, évidemment. Donc, les gens qui s'arc-boutent, notamment les autorités françaises et camerounaises, à refuser de parler de guerre et d'aborder cette question en face, notamment avec les répercussions aujourd'hui, les réparations. Meredith Terreta en a parlé pour le cas du Kenya. Au Cameroun, ça pourrait tout à fait être le cas également.
Thomas Deltombe.
Cette histoire, elle est très actuelle en fait. On écrit ça dans l'introduction. C'est pas une histoire qui est finie. C'est pas juste un dossier passé. C'est pas juste un amusement, une curiosité qui va dans les livres d'histoire qu'on peut ranger sagement dans les livres d'histoire, comme disait François Hollande. C'est une histoire extrêmement actuelle. On touche là aux fondations des relations franco-camerounaises et même plus globalement des relations franco-africaines. Du coup, on est dans une histoire hyper actuelle. Vous savez peut-être que Paul Biya, président du Cameroun, a 83 ans. Il y a peu de chances qu'il soit éternel. Qu'est-ce qui se passe après? Les questions qui ont été posées dans les années 50 par l'UPC sont toujours actuelles. Cette guerre parle de questions brûlantes d'actualité.
Merci à tous les deux. Je recommande à nos auditeurs votre livre « La guerre du Cameroun », c'est aux éditions « La Découverte ». Cameroun, la guerre secrète, c'était un nouvel épisode de La Marche du Monde, réalisé par Sophie Janin. N'hésitez pas à réagir sur la page de notre Facebook, podcaster. Cette émission, c'est la vôtre.